eu un bon temps dans la louange, c'est toujours bon de mettre de côté les choses de la semaine, que ce soit bon, moins bon, mauvais, tout mettre de côté ce qui a pu nous capter notre attention durant la semaine, puis on va se courber devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse avoir accès à nos cœurs, parce que c'est là qu'il parle, hein? Le Seigneur parle à nos cœurs par sa parole. Donc, Seigneur Dieu, on vient à toi dans le nom de Jésus. Remercie pour ta présence au milieu de nous, Seigneur, ce matin. Merci parce que c'est ta présence, Seigneur, qui va nous enseigner par ton Saint-Esprit qui est là ce matin avec nous. Merci pour des cœurs qui sont réceptifs à écouter ta parole et à la mettre en pratique. Merci pour ton onction qui est ici ce matin, Seigneur Dieu. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Merci pour ton onction qui est en moi, qui est sur moi pour apporter ta parole, parler les oracles de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, pour commencer, je vais faire une ouverture. Vous n'avez pas besoin de tourner tout de suite. C'est dans 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 12, qui nous dit « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Donc, on sait que quand on mène le bon combat de la foi, on va être capable de sortir de tous les domaines de l'échec dans notre vie. Parce que même si on est chrétien, des fois, il y a des échecs qui sont là. On va être capable de sortir de l'échec pour entrer dans la puissance illimitée de Dieu. N'est-ce pas bon de savoir que la puissance de Dieu est illimitée? Nous, on connaît nos limites, on a des lacunes, mais la puissance de Dieu, elle est illimitée. Vous savez, des fois, en parlant avec des chrétiens, j'ai entendu des fois des gens dire, bon, qu'ils vont combattre le diable. Ils se mettent à combattre le diable. Il y a même des groupes comme ça. Je ne sais pas si vous avez peut-être déjà entendu parler de certains groupes qui s'habillent en guerriers. Vraiment, littéralement. Puis là, ils se mettent à combattre le diable. Ils font des réunions, puis ils tournent en rond, puis là, ils crient après le diable. Puis là, ils font tout ce qu'ils peuvent, tempête, tant qu'ils peuvent après lui. Ils essaient de combattre le diable. Bien, premièrement, on n'est pas à la tâche de combattre le diable. On n'est pas à la taille de combattre le diable. Puis deuxièmement, ben la bonne nouvelle, c'est que Jésus l'a vaincu pour nous à la croix, en devenant notre substitut. Par contre, il y a d'autres chrétiens qui, eux, ils vont lutter, ils vont parler de lutter contre le péché. Là, ils vont s'infliger toutes sortes de lois, toutes sortes de choses qu'ils vont faire pour essayer de lutter contre le péché. De l'ascétisme. Ils donnent leur sucre au Seigneur. Ils donnent leur sel au Seigneur. Ils donnent leur chip au Seigneur. Ils donnent tout au Seigneur. Leur pizza. Puis là, ils en font, là. Parce qu'ils veulent essayer de combattre, de lutter contre le péché. Et pourtant, la solution à ça, elle est simple. Le remède au péché, c'est Jésus. Donc, le seul combat qu'on nous sommes appelés à mener, c'est le bon combat de la foi. Mais si un combat qui existe, c'est parce que forcément, il y a des adversaires, n'est-ce pas? Il y a des obstacles à notre foi, sinon il n'y aurait pas de combat. C'est un peu comme dans les sports, dans la lutte. Il y a toujours un adversaire, on veut toujours conquérir, il va toujours avoir un vainqueur et un vaincu. Donc, c'est la même chose dans notre vie chrétienne, mais nous, on veut sortir vainqueur. Le Seigneur dit que par lui, on peut tout surmonter. Donc, ce matin, on va regarder des ennemis de la foi. Je sais qu'on est un groupe, parce qu'on est bien enseigné dans cette église, on a des bons pasteurs qui sont loin, des bons enseignants qui nous apportent des bons enseignements. Donc, on sait tous qu'est-ce qu'est la foi, n'est-ce pas? Selon Hébreu, c'est quoi la foi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, ça, on sait tout ça, c'est tout beau. La foi, c'est ça. On espère, on croit dans le Seigneur, on a la foi. Mais, par contre, il y a des ennemis de la foi. Je ne sais pas si vous... Est-ce que c'est une grande révélation pour vous ce matin? Je ne sais pas. Mais, si vous êtes chrétien depuis un bon bout de temps, vous êtes sûrement rendu compte qu'il y a des ennemis à votre foi. Si on n'est pas capable d'identifier, c'est sûr que là, je ne les ai pas toutes écrites ce matin, parce qu'on serait ici quand même un bon bout de temps. Donc, j'en ai pris quelques-uns, ceux qui venaient sur mon cœur, parce que le Seigneur mettait sur mon cœur de prêcher là-dessus, les ennemis de la foi. Donc, le premier ennemi de notre foi que j'ai trouvé, il y en a plusieurs, mais c'est l'incompréhension de la nouvelle créature en Christ. Donc, dans 2 Corinthiens 5, si vous voulez tourner ou si vous voulez juste écouter, si c'est comme vous voulez, 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7, Peut-être c'est bon d'aller voir aussi, parce que faut toujours que la parole de Dieu soit confirmée. Qu'est-ce qu'on prêche, qu'est-ce qu'on avance au lutrin. Il faut pas juste prendre ça puis se gaver de tout là, avaler le poisson, l'hameçon puis tout le kit là. Faut toujours vérifier par la parole de Dieu, à savoir qu'est-ce qu'on dit. Est-ce que la parole de Dieu est conforme à cela? Donc 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont quoi? Sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, si on ne comprend pas ce que ça signifie d'être une nouvelle créature en Christ, forcément, ça va entraver notre vie de foi, notre marche dans la foi. Donc, il faut être conscient d'être une nouvelle créature. À tout moment, à tout instant, chaque jour, on devrait, comme chrétien, être conscient que nous sommes une nouvelle créature. Dieu n'a pas simplement pardonné nos péchés, quoique merveilleusement, oui, il l'a fait par sa grâce, par son sang précieux qu'il a versé à la croix. Il nous a lavé, il nous a pardonné de nos péchés. Mais c'est pas juste ça qu'il a fait. Il nous a pas simplement pardonné. On n'est pas juste des membres d'église qui s'assemblent le dimanche pour entendre une prêche, qu'on vient là, pour écouter une étude à la mi-semaine. On n'est pas juste des membres d'église, des chrétiens qui arrivent à peine à vivre, mais nous sommes une nouvelle créature en Christ. Donc, on a été façonnés par Dieu. Même si on a des parents terrestres qui nous ont donné quand même la vie d'un naturel, on est façonnés par Dieu. La vie et la nature même de Dieu réside dans notre esprit. Et pas dans notre tête, pas dans notre âme que Dieu réside. C'est pour ça que des fois, on essaie de raisonner, on essaie de parler à Dieu, mais avec notre tête. Dieu réside pas dans notre tête, mais réside dans notre esprit, dans notre cœur. C'est là qu'il nous fait sa demeure. Donc, nous sommes des enfants de Dieu. On n'est pas juste des petits n'importe quoi, là. On est des enfants de Dieu. Ça veut dire qu'on est héritier de Dieu. Et on est co-héritier de Jésus-Christ. N'est-ce pas beau? Hein, Dieu nous a donné la vie éternelle, mais il n'a pas arrêté là. Il aurait pu juste nous sauver. Ça aurait été déjà merveilleux, parce qu'on est en chemin vers l'enfer. C'était ça notre destinée, avant de le connaître. Il aurait pu dire, je vous sauve, ça finit là. Mais non, il a ajouté des choses à ça. Dieu est un Dieu de plus qu'assez. Il donne plus qu'on peut jamais même penser et espérer. Alléluia. Donc, le deuxième ennemi, c'est l'incompréhension de notre position en Christ. Si on parcourt le Nouveau Testament, surtout dans les Épîtres, on dit qu'il y a environ 140 expressions. Je ne les ai pas tous trouvées, mais on dit qu'il y a à peu près 140 expressions qui vont dire ceci. En Christ, en lui, en qui? Donc, il faut prendre le temps de méditer ces versets-là. Il faut les déclarer de notre bouche. On a vu tout à l'heure que dans la louange, c'est par nos lèvres. Mais la déclaration de la parole aussi se fait par nos lèvres, se fait par notre bouche. Donc, voilà qui je suis. Il faut savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Et voilà ce que je possède en lui. Voilà ce que j'ai en Jésus. Donc, je trouvais ça tellement bon que j'ai pris le temps de trouver quelques versets. Il y en a plusieurs, comme je vous dis, il y a 140 expressions comme ça. Donc, imaginez tous les versets dans les Épîtres qui vont parler de « en qui, en lui », tout ça. Mais j'ai pris le temps de trouver quelques versets, puis on va les regarder ensemble ce matin pour s'affirmer davantage de notre position en Christ, savoir qui nous sommes en lui et ce que nous possédons en lui. Donc, Romains, chapitre 5, le verset 1 nous dit, Romains 5, je vous dévance un petit peu parce que j'ai triché, moi j'ai déjà tout écrit mes versets, donc je vais vous laisser le temps de les trouver. Mais c'est important qu'on prenne le temps de regarder, on ne les a pas ce matin sur le PowerPoint, comme on a d'habitude les feuilles. Donc, on va prendre le temps de regarder les versets, de se tremper dans la parole de Dieu, de voir qui nous sommes en Christ. Romains, chapitre 5, le verset 1. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, nous sommes justifiés. Ça veut dire quoi, ça? C'est notre position légale. C'est une position légale que nous avons en Dieu, d'être justifié. On ne parle pas de la sanctification ici, parce que la sanctification, ça, c'est nous qui devons la faire. Nous devons nous sanctifier. Chaque jour, on doit sanctifier notre vie. Mais la justification, ça, c'est une chose, c'est par imputation qu'on l'a reçue, c'est par grâce, c'est un cadeau de Dieu. Donc, on fait la distinction entre se justifier et se sanctifier. On se sanctifie soi-même par la parole de Dieu, par la méditation de la parole, par la prière aussi. Mais ici, on parle de la justification. Ça, c'est notre position. C'est notre position légale à la résurrection. Quand le Saint-Esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts, il nous a assis avec lui dans les lieux célestes. Il nous a justifiés en Jésus-Christ. Et il y a aussi 1 Corinthiens 2:12. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, on voit qu'on a été justifié, notre position légale. On a aussi reçu quelque chose de merveilleux. On a reçu l'Esprit de Dieu. Pas cet esprit qui vient du monde, un esprit de timidité, un esprit de peur, un esprit qui est dans ce monde. Mais on a reçu l'Esprit de Dieu. Et il veut que nous ayons la connaissance pour savoir toutes les choses que Dieu nous a données par sa grâce. On ne les a pas gagnées, il nous les a données par sa grâce. Mais Dieu veut qu'on prenne connaissance des choses merveilleuses qui nous appartiennent. Il y a aussi Éphésiens, chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, c'est une chose passée. Il nous a bénis. Pas il va nous bénir si on est fin, si on est bon, si on vient à l'Église, si on lit la Bible, si on prie assez. Là, il va nous bénir. Il nous a déjà bénis. C'est quelque chose qui nous appartient déjà. Donc, en méditant tous ces versets-là, je vous encourage d'aller souvent dans les Épîtres. C'est bon de lire la parole de Dieu dans son entièreté, mais d'aller surtout dans les Épîtres. C'est des lettres qui sont écrites à l'Église. Et d'aller regarder, puis prenez le temps de souligner, prenez un crayon, un stylo, n'importe quoi, la couleur que vous aimez. C'est bon d'écrire dans nos Bibles. Il y a des gens, des fois, qui disent « Ah oui, mais moi, ma Bible, je ne veux pas barbouiller. » C'est pas comme un journal. C'est notre livre de référence, c'est notre manuel pour savoir comment vivre dans la victoire. Donc, il ne faut pas avoir peur de souligner en bleu, en jaune, en vert, en rouge. Pour vous, vous connaissez, faites-vous un code à vous. Mais allez souligner les expressions que j'ai dit tout à l'heure. En qui? En lui? Par qui? Soulignez ça, puis vous allez voir que la prochaine fois que vous allez lire, vous allez méditer, vous vous arrêtez, puis dire, en Christ, pas en moi, pas dans ma chair, mais en Christ, voici qui je suis, voici ce que j'ai reçu en lui. Donc, on prend le temps. Si on prend le temps de regarder ces versets-là, de les méditer, ces versets-là vont nous aider à marcher dans la lumière de ce que nous possédons déjà. Si on ne marche pas dans les choses qu'on possède, ce n'est pas la faute de Dieu, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il nous a déjà donné. Donc, le problème revient à nous. La responsabilité revient à nous de marcher dans la lumière de nos droits parce qu'il nous les a déjà donnés. Donc, ça ne sert à rien de prier, « Ah, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. » Non, il va dire, « Regarde, lis ma parole comme il faut. Sais-tu lire? Je te les ai déjà donnés. Fais juste marcher là-dedans. Fais juste me demander, demande la sagesse pour reconnaître. Ça prend la sagesse d'en haut pour reconnaître, pour voir ce que Dieu nous a donné. Ça prend une révélation pour savoir et comprendre les choses que Dieu nous a données. Ça prend la sagesse. La sagesse, c'est la capacité d'être capable de faire les choses que Dieu nous montre. On peut s'asseoir là toute notre vie, puis écouter, mais on n'a pas la sagesse tant qu'on ne met pas en application les connaissances qu'on a. Ça, c'est la sagesse. C'est d'appliquer ce qu'on connaît. Ça, c'est la sagesse d'en haut. Le troisième ennemi de la foi, c'est l'incompréhension de la justice de Dieu. Donc, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, je sais que j'ai plusieurs versets ce matin, mais c'est quand même important qu'on prenne le temps de regarder, de méditer, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, l'incompréhension de la justice de Dieu, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21. « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui. » En lui. Justice de Dieu. 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, on voit qu'à la nouvelle naissance, On est devenus des créatures nouvelles, justifiées. Donc, nous sommes des fils et des filles de Dieu. On peut se tenir donc dans la présence de Dieu. Prenons le temps de réfléchir. Se tenir dans la présence de Dieu. On ne parle pas de n'importe qui, là. On ne parle pas d'un dignitaire sur la terre. On sait se comporter devant les dignitaires. Si le premier ministre venait au milieu de nous ce matin, on saurait l'accueillir. On ne ferait pas juste aller serrer la main comme ça. Il y a des façons. Si la reine, si... Bon, on sait porter respect à des gens qui sont en autorité. Mais si on parle de ce... On parle de Dieu, si on parle d'être capable de se tenir dans la présence de Dieu qui est trois fois saint, lui qui a créé l'univers et tout ce qu'elle remplit, tout ce que la terre et tout ce que c'est Dieu qui l'a créé, il nous a créé nous aussi. Donc on a le droit de se tenir dans cette présence-là avec assurance, comme si on n'avait jamais péché. On peut se tenir devant Dieu, on peut venir au trône de grâce avec assurance, sans avoir un sentiment de honte ou de culpabilité. Jérémie 31-34 dit, « Car j'ai pardonné leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » N'est-ce pas merveilleux? Dieu met nos péchés dans la mer d'oubli. Vous êtes ici peut-être ce matin puis vous dites, « Oui, mais moi j'écoute tout ça, là, mais... » J'arrive pas à connecter avec ça. Ça me semble pas être une réalité, cela. Parce que c'est bien beau, là. J'ai reçu le Seigneur Jésus. Oui, oui, je suis née de nouveau. Ben, il est vraiment mon sauveur. Il est le Seigneur de ma vie. Mais attends une minute, là. Moi, depuis que je suis née de nouveau, là, j'en ai commis des péchés. J'ai tombé, là. J'en ai eu des échecs, là. Je comprends pas comment est-ce que je peux arriver puis me tenir devant Dieu. Puis, sans honte, sans culpabilité, puis tu sais, ben, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ parce que j'ai conscience de mes manquements, de mes lacunes. Alors, je suis contente que vous ayez posé la question. Comment je fais pour me tenir devant Dieu sans honte, sans culpabilité? Mais je vous donne la réponse à ça. C'est dans 1 Jean 1,9. Si, toujours si, c'est conditionnel quand même. Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu est parfait. Mais il y a des conditions aussi. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est pour ça qu'on peut venir dans sa présence, sans ce sentiment-là de honte, de culpabilité, de remords. Si on les confesse, ces péchés-là, il est fidèle et juste pour nous pardonner, qu'il les oublie. Pourquoi est-ce que nous, on va s'en rappeler? Même quand l'ennemi vient et veut vous montrer un vidéoclip de ce que vous avez fait, vous dites non, attends un peu, ça ne marche pas là. Ça ne marche pas pantoute parce que je les ai confessés. Je suis venue à Jésus-Christ. J'ai confessé. Je m'ai mis en accord avec lui. J'ai mis ma vie propre et en règle. Et dès qu'il y a quelque chose, il ne faut pas laisser le soleil se coucher sur des choses qu'on fait. Il faut se juger au moment. Il ne faut pas attendre d'accumuler ça comme la lessive sale. Là. On fait le lavage là, quand la main à linge, elle déborde. Non. Il faut, à chaque fois qu'on est conscient qu'on a offensé, On aurait offensé un frère, une sœur. On n'a pas marché dans l'amour. On est conscient qu'on ne marche pas dans toute la pleine lumière qu'on a. On s'arrête tout de suite sur le champ, puis on le confesse. Au lieu de faire comme Adam et Ève, puis aller se cacher. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont péché? Ils ont été se cacher de la présence de Dieu, puis ont essayé de se faire du linge avec des feuilles. La nature humaine est comme ça. Quand on fait quelque chose, puis on sait qu'on n'aurait pas dû, au lieu d'arriver à la pleine lumière, comme il est la lumière, au lieu de faire cela, on va se cacher. On essaie de se cacher, on essaie d'abrier ça, on essaie de s'excuser. Mais ça fait juste d'empirer le problème. Non, on vient à la lumière. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. N'est-ce pas bon de savoir qu'on peut avoir une vie qui est nettoyée, qui est lavée, qui est purifiée de toute iniquité? On peut marcher la tête haute. On peut regarder les gens dans les yeux. On peut lever les yeux vers le Seigneur puis le louer avec des mains pures, des cœurs purs, parce qu'on est purifié de toute iniquité quand on confesse nos péchés. L'ennemi numéro 4, c'est l'incompréhension de notre droit d'utiliser le nom de Jésus. Si on ne comprend pas qu'on a le droit, c'est un droit légal d'utiliser le nom de Jésus, on va avoir des problèmes. Jean 16, 23 et 24. « Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » En mon nom, qu'il dit. Si vous demandez quelque chose au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Donc, la raison pour laquelle Dieu veut qu'on demande, c'est pas parce qu'il veut qu'on se mette à quatre pattes, puis qu'on fasse comme des petits piteux, puis des petits chiens, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il veut pas qu'on ait cette attitude-là. Il veut qu'on demande parce que lui, il veut déjà nous le donner. Il veut qu'on demande pour recevoir, parce qu'il veut que notre joie soit parfaite. Non, c'est pas, on s'en vient pas commander, on s'en vient pas quêter, on s'en vient demander nos droits légaux. Ce qui nous appartient en Christ. Donc, il nous invite à demander afin qu'on puisse recevoir, afin que notre joie soit parfaite, mais on demande en son nom. Il faut faire attention des choses qu'on demande, par contre, parce qu'on ne peut pas demander n'importe quoi en son nom. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est pur. Ce qu'on demande doit être en accord avec sa parole. Si on ne connaît pas la parole de Dieu, c'est là qu'on va demander des choses qui sont erronées, des choses qui sont contraires à lui. Puis là, la parole de Dieu va nous reprendre et dire, vous demandez, mais vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos convoitises. On peut demander dans le nom de Jésus n'importe quoi, mais on ne l'aura pas si c'est pour satisfaire nos convoitises. Mais si ça s'enligne avec la parole de Dieu, si nos demandes sont à la lumière de la parole de Dieu, on a la certitude que ce qu'on demande, on va le recevoir pour que notre joie soit parfaite. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Il ne veut pas qu'on soit juste des petits chrétiens là, qui attendent après son retour. On a vécu de même assez longtemps. Moi, la première, dans le passé, venant d'un arrière-plan, on n'avait pas la connaissance de ces choses-là. On était pas, on marchait pas dans la pleine lumière de ce qu'on connaît aujourd'hui. Puis je me rappelle plus que quand j'étais enfant, même adolescente, j'étais frustrée dans ma vie chrétienne, dans ma marche avec le Seigneur. Puis bien des fois que j'ai pris des détours aussi à cause de cela. Parce que on mettait toute l'emphase juste sur la vie éternelle. Comment Dieu est bon, comment Jésus est venu nous sauver, puis tout ça, puis il a versé son sang, puis il est parti nous préparer une place, puis quand elle va être prête, il va venir nous chercher. Puis là, je disais, voyons, ça prend du temps à préparer cette place-là, ça fait des années, puis elle n'est pas encore prête. Mais on ne nous avait pas montré comment vivre la vie chrétienne. J'avais aucune notion de comment vivre la vie chrétienne du quotidien, des choses pratiques. C'était toujours, on soupire après le retour du Seigneur. Un jour, on pleurera plus. Il va essuyer les larmes de nos yeux. Vous êtes malade, là, un jour, vous ne serez plus malade. Vous allez être dans sa présence. Vous êtes pauvre, bien là, un jour, vous ne serez plus pauvre, vous allez marcher ses rues d'or. Puis là, je disais, bien, oui, mais ça ne marche pas, là, Seigneur. Ici, en bas, on fait quoi en attendant que tu reviennes? C'est-tu plate un peu? On marche la tête basse, on est écrasé, on ploie sur des fardeaux. C'est pas ça que Dieu veut. Il est venu, puis il veut qu'on demande en son nom, puis qu'on reçoive, puis qu'on ait la joie parfaite, sa joie parfaite. Donc, si on est capable de réaliser, parce qu'on parle ici, le quatrième ennemi, on est en train de parler du droit d'utiliser le nom de Jésus. Si nous réalisons pleinement la puissance qui est derrière ce nom-là, et si on comprendrait ce que le nom de Jésus peut accomplir, c'est pas juste dire, ah, oh, Jésus, 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 là, puis faire de la vaine répétition. Il y a une puissance qui se dégage quand on prononce le nom de Jésus avec foi. Il faut vraiment comprendre le nom de Jésus, qu'est-ce que ça signifie, puis qu'est-ce qui est derrière ce nom-là. Le nom de Jésus va nous aider à triompher de Satan et de remporter la victoire à tout niveau. Le nom de Jésus fait quoi? Il accompagne les miracles. C'est déjà beau, hein? Le nom de Jésus nous a lavés, nous a purifiés, nous donne sa paix, nous donne sa joie. Il accompagne le miraculeux. C'est le nom de Jésus qui fait que le miraculeux est là. Il chasse les démons. Dans le nom de Jésus, les démons sont chassés. Il nous aide à parler de nouvelles langues. Puis le nom de Jésus guérit les malades. Alléluia. Et ce nom-là, ce qui est beau, c'est un nom qui nous appartient. C'est pas juste quelque chose qui est lointain et qu'on dit, « Ah oui, mais le nom de Jésus, ouais, mais regarde. » Comment je fais pour accéder à tout ça, cette puissance-là? Puis comment... Non, il nous l'a donné. Dieu est tellement bon. Il n'est pas gratteux, hein? Il est épouvantable comment il est bon, comment il est grand. Ce qu'il a, il nous le donne. Il reçoit un héritage de son père, ça revient de bord, puis il dit, hey, je partage ça, moi je n'ai trop. Je partage mon héritage. J'ai un co-héritier avec moi. J'ai reçu un nom au-dessus de tout nom. Le nom par excellence, je leur donne en plus à mes enfants. Je partage tout ce que... Parce que le Seigneur veut que nous marchions dans la plénitude de ce qu'il nous a donné. Donc, le nom de Jésus nous appartient. Donc, la puissance nous appartient et l'autorité qui se tient derrière ce nom-là. Il ne faut pas avoir peur de prendre le nom de Jésus. Souvent, on est là et on dit, oui, on pense que c'est nous qui va faire l'œuvre. On prend le nom de Jésus, puis c'est comme si on pense que, oui, mais tout d'un coup que je prends le nom de Jésus, tout d'un coup que je dis, dans le nom de Jésus, puis là, on a peur de mettre les mains sur les malades. Parce qu'on pense que c'est nous, on pense que c'est une œuvre qui nous appartient. C'est en son nom que ça va se faire. La puissance est relâchée dans le nom de Jésus. Par contre, il faut être des véhicules qui sont sanctifiés. On peut pas penser qu'on, si on rouvre, par exemple, on peut pas penser qu'on va avoir de la bonne eau si le boyau est rouillé, si l'eau qui va sortir de là, ça va être de l'eau sale, ça va être de l'eau rouillée. Donc, c'est bien beau de dire, ah oui, le nom de Jésus, mais le nom de Jésus, ça demande des vases qui sont sanctifiés. Des vases qui marchent dans la pureté, qui marchent dans l'amour, qui marchent dans la compassion. Parce que si on met les mains sur quelqu'un, on met les mains sur un malade pour s'en débarrasser, puis on dit, ben, dans le nom de Jésus, le sois guéri. Parce que là, on est tanné. Je ne citerai pas la personne, je ne dirai pas, mais ça me fait penser à une personne qui m'est chère. À un moment donné, sa petite fille, en plein milieu de la nuit, réveille sa mère avec un otite, puis elle criait, hein. Elle avait peut-être 2 ans et demi, puis ça faisait mal, là. Puis elle criait, là. L'autre est fatiguée, c'était bon, il est 2h30 du matin, elle travaille le lendemain matin. Donc, elle se lève, puis ça faisait pas longtemps qu'elle entendait parler du nom de Jésus, la guérison, tout. Elle s'en va trouver son enfant, puis elle dit, sois guérie, là, dans le nom de Jésus. Puis elle retourne se coucher, c'est comme, ferme ta boîte, puis dors, je suis fatiguée, j'en peux plus. L'enfant continue à crier, à hurler le mal d'oreille. Là, la mère se dit, ben voyons, ça marche pas. Dans le nom de Jésus, putain, j'ai bien dit, t'sais, sois guérie. Elle crie encore, puis elle se lamente, qu'est-ce qui se passe? Puis le Seigneur lui a dit, t'as oublié la compassion. T'as pris mon nom, mais pour te débarrasser, t'avais aucune compassion dans ce que t'es allé faire. Tout ce que tu veux, c'est aller dormir. Elle a pris conscience, puis elle est venue comme les larmes aux yeux, puis c'est vrai, parce que Jésus guérissait comment? Ému de compassion. Il disait pas, ben là, regarde-moi donc la foule qui est après moi, je suis fatiguée, j'ai fait une grosse journée. En plus, ce soir, il faut que je m'aille sur le mont des Oliviers pour passer la nuit à prier pour eux autres. Là, regarde-moi la gang qui sont là pour se faire guérir. Soyez donc toutes guéries, là. Non! Il était ému de compassion. Puis pourtant, lui, il n'avait jamais goûté la maladie dans son corps. Il ne savait pas ce que c'était d'être esclave, d'être emprisonné par la maladie, l'infirmité. Puis pourtant, son cœur était ému de compassion. Il guérissait les malades par compassion. Donc, elle est retournée, puis elle est allée mettre les mains sur son enfant, avec beaucoup de compassion, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Dieu, que par tes meurtrissures, mon enfant est guéri. Là, tu es parti comme ça. Elle peut se retourner se coucher, mais le Seigneur voulait lui montrer, garde pas assez, tu prends mon nom, mais prends-les pas vainement comme ça, avec la compassion. On doit suivre l'amour et la compassion. Donc, on parle toujours des ennemis de la foi, on est rendu au 5e ennemi, c'est pas drôle d'avoir tant d'ennemis que ça, hein? Mais Dieu les a vaincus, puis on est plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Donc, l'ennemi numéro 5, c'est de ne pas mettre la parole en pratique. Si on veut que la parole de Dieu soit une réalité dans nos vies, on doit commencer à agir en conséquence. Il ne faut pas faire comme dans Jacques, où on fait juste lire, on fait juste regarder la parole de Dieu, puis dès qu'on la ferme, on est des auditeurs oublieux. Il faut mettre la parole en pratique. Puis si on ne la met pas en pratique, elle ne fera pas ce qu'elle est supposée de faire pour nous. Puis là, on se revient de bord, puis on blâme le Seigneur, on dit, ben oui, mais regarde, je l'ai faite, là. Regarde, je l'ai lue, non. Oui, mais 2 minutes après, on l'a toute mise dans les oubliettes, puis on se revient de bord. Non. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique si on veut qu'elle devienne une réalité pour nous. Il faut qu'on agisse en conséquence de ce qui est dit là. Proverbe 3, le verset 5 nous dit, « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. » Pas juste un petit peu, là, pas juste de temps en temps. « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, c'est-à-dire sur ton raisonnement, sur ce que ta tête te dit, sur ce que tes circonstances te disent. » Il ne faut pas s'appuyer là. Ça, c'est notre propre sagesse à nous. Mais on se confie de tout notre cœur en l'Éternel. Par exemple, disons que quelqu'un voudrait recevoir la guérison divine. Ou n'importe quelle autre chose, mais on va parler un petit peu de guérison. Ça ne suffit pas d'être capable de citer tous les versets sur la guérison, d'être les tout connaître par cœur. Là, vous allez dire, bien là, je suis pas mal déçue parce que là, j'avais commencé, moi, je mets une bonne liste. Là, j'ai commencé à les apprendre par cœur. C'est bien, je peux après vous dire de mettre ça de côté puis pas faire ça. Mais ça, ça suffit pas pour recevoir la guérison, de connaître les versets par cœur. Non. Il faut qu'on agisse en conséquence. Si la parole de Dieu me dit, par ses meurtrissures, j'ai été guérie, il faut qu'on agisse en conséquence de cela. Parce que même si on connaît tous les autres versets par cœur, sur la guérison, sur la prospérité, sur n'importe quoi, on n'obtiendra pas la chose qu'on veut. Donc, il faut agir en conséquence et maintenir une bonne confession malgré les symptômes contraires. C'est ça qui n'est pas facile. Parce que quand on a du mal, ça fait mal. Le corps, il fait mal pour le vrai. Quand on a un malaise, on a, prends la petite que je vous parlais à propos, quand il y avait un otite, à crier, ça fait mal, un mal d'oreille. Donc, il faut continuellement, malgré les symptômes qui sont contraires, il faut maintenir cette bonne confession-là. C'est ça que ça veut dire de mettre la parole de Dieu en pratique. Il faut que par la foi, il faut commencer à faire ce qu'on n'était pas capable de faire auparavant. Il faut agir pour recevoir la victoire. Quand on vient en avant, des fois, quand il y a un appel pour la guérison, il faut vous commencer à faire ce que vous n'étiez pas capable de faire avant. Sinon, c'est une foi qui est vaine. Si on prie pour votre bras, par exemple, disons que quelqu'un a, je sais pas, une bursite, il a une épaule, il est bloqué, puis il ne bouge pas, puis il s'en va se rasseoir, puis il reste comme ça. Il ne bougera pas plus. Tu commences à bouger. Seigneur, j'ai reçu la prière. On a imposé les mains sur moi. Puis on me dit, selon ta parole, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, cette épaule-là est guérie. Dans le nom de Jésus, je commence à bouger mon épaule. Je commence à faire ce que mon épaule n'était pas capable de faire. Au début, vous allez peut-être sentir de la douleur, une raideur. Ça va faire comme contraire, là. Les symptômes sont encore là. Mais plus vous allez la bouger, plus vous allez bouger ce bras-là, plus vous allez confesser la parole de Dieu, mais le mal va partir. Ça prend de la persévérance. C'est la foi mêlée avec la persévérance. Donc, il faut faire ce qu'on n'était pas capable de faire avant. C'est-à-dire qu'il faut agir pour recevoir la victoire. La foi véritable va être engendrée par la connaissance de la parole de Dieu. Plus on a de la connaissance de la parole de Dieu, plus la foi va être forte dans ce domaine-là. Donc, c'est important de se nourrir de la parole de Dieu. Contrairement à si notre foi est faible, parce qu'on ne se nourrit pas de la parole de Dieu, quand vient quelque chose, il vient, l'ennemi vient, une circonstance contraire, on ne sera pas capable d'avoir la victoire. Il faut être nourri de la parole de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas aller, votre foi ne peut pas aller au-delà de ce que vous avez de connaissance pour. Comme moi, quand je vous expliquais quand j'étais plus jeune, je ne pouvais pas espérer, je ne pouvais pas croire au-delà de ce qu'on m'enseignait. On m'enseignait qu'il fallait attendre après le ciel, qu'il fallait soupirer après le ciel, après le retour du Seigneur Jésus. Parce que sur la terre, regarde, il n'y a rien. C'est tout spirituel. La guérison est spirituelle, la prospérité est spirituelle. Tout est spirituel. Il n'y avait rien pour nous aider physiquement dans nos besoins. Donc, c'est sûr qu'on soupirait après le ciel, mais on était frustrés en même temps, parce que, bon, on ne sait pas quand le Seigneur va revenir. On a besoin de vivre encore sur la terre, que ce soit une journée, ou que ce soit 100 ans, ou 50 ans, il y a le quotidien qui continue, puis les besoins sont là. Donc, si on ne veut pas vivre une frustration comme ça, il faut être capable de savoir qu'est-ce qui nous appartient. Il faut être capable d'être rempli de la parole de Dieu pour aller chercher ce qu'on a besoin. L'ennemi numéro 6, c'est ça, c'est de ne pas tenir ferme dans la foi qu'on proclame. On commence comme il faut, on commence dans la foi, ça va bien, une semaine passe, deux semaines, oups, nos circonstances n'ont pas changé. Mais vous savez que des fois que nos circonstances peuvent être le résultat de nos confessions. Si on a confessé pendant 20 ans du négatif, ça ne changera pas du jour au lendemain. Donc là, on essaie pendant deux semaines de changer tout ça. Là, on dit, mais oui, mais là, je vais confesser la parole. Je ne comprends pas, il n'y a pas de résultat. On s'affaise, puis on cesse de proclamer, on cesse de tenir ferme dans ce qu'on a commencé à proclamer. L'ennemi vient, puis nous vole. Il vient voler la semence qui a été mise là. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Romains 10:10 nous dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Marc 11:23-24, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il faut croire que ce qu'on dit va s'accomplir. Puis là, on va voir le résultat de cela. La foi se mesure aux paroles qu'on prononce. le Seigneur nous parle dans sa parole, puis nous dit de s'examiner pour savoir si on est dans la foi. Faites cet exercice-là cette semaine, puis moi je m'inclus aussi, je me parle à moi-même aussi. Tout en prêchant, je me prêche à moi aussi. Faisons l'exercice cette semaine. On veut savoir si on est dans la foi. Regardons. Prenons le temps de s'écouter. On écoute beaucoup les autres, mais des fois on s'écoute très peu. Prenez le temps de vous écouter, savoir vos paroles que vous allez prononcer cette semaine. Ça va vous dire si vous êtes dans la foi ou pas. Si vos paroles sont contraires à la parole de Dieu, si on parle toujours le négatif, si on parle toujours contraire à ce que la parole de Dieu nous dit, on n'est pas dans la foi. Puis pourtant, on est supposé de s'examiner. Chacun, on n'examine pas notre voisin. On s'examine pour savoir si on est dans la foi. À savoir si mes paroles sont conformes à la parole de Dieu. Parce que vous savez que tôt ou tard, on va devenir ce qu'on prononce. Peut-être pas aujourd'hui même, là. Mais tôt ou tard, on va, pour le bien ou pour le mal. Donc, si vous continuez à parler négatif, vous continuez à semer des paroles négatives, il y a une récolte qui vient. Tôt ou tard. Si on parle mal des autres aussi, on sème la destruction. On sème la mort. Il va y avoir une récolte. Donc, que ce soit pour le bien ou pour le mal, on finit par devenir, on finit par être ce qu'on dit. Donc, il faut se regarder ce matin et dire, est-ce que j'ai eu des paroles qui ont été dites à la légère? Est-ce que j'ai parlé mal d'un frère ou d'une sœur? Est-ce que je ne l'ai pas assez entouré d'amour, de foi? Est-ce que j'ai semé des paroles à tout vent comme ça, de destruction, de mort? C'est si facile à faire, on n'est pas conscient des fois qu'on fait ces choses-là. Renversons plutôt les choses, puis commençons à parler le bien. Commençons à dire des paroles qui sont édifiantes, des paroles qui sont oints, des paroles qui, quand elles sont prononcées, ça amène une grâce à ceux qui les entendent. Donc, on veut être selon nos paroles. On ne veut pas devenir pire, mais on se rassemble pour devenir meilleur, n'est-ce pas? Donc, on a vu que la confession du cœur, selon Romains 10, 10, il y a la confession du cœur, puis il y a la confession des lèvres aussi. Si les deux s'harmonisent, il faut que la confession du cœur et de la bouche, doivent s'harmoniser pour qu'on ait une vie de prière qui est puissante. Quand on mène le bon combat de la foi, on va être capable de sortir vainqueur, parce que Dieu a pourvu pour nous tout ce dont on a besoin. On va sortir vainqueur de l'échec. On n'est pas obligé d'être des chrétiens qui marchons dans l'échec. On va sortir vainqueur de la faiblesse. On va sortir vainqueur de la maladie et de la pauvreté. Puis on va entrer dans la puissance illimitée de Dieu. Elle est illimitée, sa puissance. Il veut qu'on rentre dans cette puissance-là, dans tous les domaines de notre vie. Dieu veut que nous vivions comme des plus que vainqueurs. Que ce soit pas juste de l'encre sur du papier qu'on lit, mais que ce soit une vérité, que ce soit notre vécu, que ce soit vrai pour chacun, chacune de nous, qu'on marche dans la puissance illimitée de Dieu. Donc, pour conclure, on va juste vitement regarder les points qu'on avait touchés. On a dit, première ennemie, il faut comprendre notre identité en Christ. Il faut savoir que nous sommes une nouvelle créature. Il faut comprendre notre place en Christ, qui je suis, héritier, co-héritier avec le Fils. Il faut comprendre que nous sommes la justice de Dieu. Pas en nous, pas dans nos œuvres, pas par nos œuvres. On n'est pas été justifié par nos œuvres comme certaines religions ont voulu nous enseigner dans le passé. On est justifié par le sang de Jésus. Donc, ce n'est pas par nos œuvres. Ce n'est pas parce est-ce que je viens à l'église trop souvent, pas assez souvent. On est souvent l'être humain, je ne sais pas si c'est des fois parce que la façon qu'on a été élevé, qu'on a été éduqué, il y a eu des blessures des fois, on est porté à vouloir se mesurer avec Dieu pour savoir, bien, est-ce que j'en ai-tu fait assez pour être agréable à lui? Dieu ne nous aime pas par notre performance. Puis la parole de Dieu dit que quand on était ennemi, on peut-tu trouver pire que ça? Il a donné son Fils pour nous. Nous étions ennemis, nous a réconciliés par son sang. Donc, si on est réconcilié à lui, c'est pas par des efforts, c'est pas pour essayer d'être plus fin, meilleur. Dire, ah, là, j'ai lu ma Bible juste 3 fois cette semaine. Là, je vais la lire à tous les jours. Ah, là, je sais que le Seigneur va être content. Ça ne marche pas pour lui faire plaisir. On n'essaye pas de s'approcher de Dieu pour lui faire plaisir. On s'approche de Dieu parce que c'est notre nature de s'approcher de lui. On a le goût de communier avec lui. On a le goût de l'aimer parce qu'il nous a aimés le premier. C'est pas par des mérites. C'est pas pour essayer d'être des meilleurs chrétiens. Dieu va pas nous aimer plus. Il y a des chrétiens médiocres, puis il y a des chrétiens Pareil comme la parole de Dieu dit qu'il y a des vases d'honneur, puis il y a des vases d'utile vil. On veut être des vases d'honneur. Mais Dieu ne nous aime pas à cause de notre performance. Il nous aime parce que Dieu nous voit en Jésus. Il nous voit en lui. C'est pour ça qu'il nous aime d'un amour qu'on, nous, on n'est pas capable de comprendre. Donc, il ne faut pas essayer de chercher l'approbation de Dieu, le mérite de dire, « Ah oh là, je n'ai pas fait assez cette semaine, je me sens écrasée par ça, je me sens sous le fardeau. » Non, non, non. Dieu nous aime parce qu'il nous aime. Dieu est amour, puis il nous aime parce qu'on est ses enfants. Même pas d'essayer de performer mieux pour lui. Vous savez que des fois, on peut se perdre dans le ministère, surtout ceux qui sont appelés dans les, à la prêche, à l'enseignement, bon, des pasteurs et ça. On peut se perdre là-dedans de vouloir tellement performer dans le ministère qu'on oublie que qu'est-ce que Dieu veut de nous en premier, c'est une relation. Il veut qu'on soit en communion. Il n'est pas intéressé tellement à ce qu'on fait. Même si on a, oui, s'intéresse à ce qu'on fait parce que les œuvres suivent le salut. Dieu s'intéresse à ce qu'on fait parce qu'il a donné des dons à son Église. Il a déposé des dons à chacun de vous pour que vous puissiez vivre à sa gloire. Mais avant tout ça, il s'occupe de notre communion. Il veut savoir est-ce qu'on vient dans sa présence, pas tout le temps pour demander des choses, mais juste être là pour dire, Seigneur, je t'aime. Je te bénis. Merci parce que tu es tellement grand, tu es tellement bon, tu es fidèle. On se remémore les bonnes choses que Dieu a faites pour nous. C'est notre communion qui cherche. Le service, ça va venir après. Alléluia. Donc, on dit qu'il faut connaître notre place en Christ. Il faut comprendre la justice de Dieu. Il faut comprendre qu'il est devenu mon substitut. Il est devenu péché pour moi. Lui qui n'a jamais connu le péché. Jésus n'a jamais péché, mais il est devenu pour moi péché, pour que je sois en lui la justice de Dieu. Il faut comprendre aussi notre droit d'utiliser le nom de Jésus. Et toute la puissance qui est derrière ce nom-là. Vous savez, quand on prononce le nom de Jésus avec foi, tout le ciel se tient derrière ce nom. On ne peut pas manquer. On ne peut pas. Nous, on va en Haïti là, dans 2 jours. C'est dans le nom de Jésus qu'on va là. C'est dans le nom de Jésus qu'il va y avoir des miracles, qu'il va y avoir des prodiges, qu'il va y avoir des guérisons, qu'il va y avoir des gens délivrés, sauvés. Les chaînes vont tomber. Parce que c'est en ce nom-là qu'on y va. Donc, il ne faut pas avoir peur de prendre le nom de Jésus, de l'utiliser, savoir que c'est notre droit légal. Ça nous appartient. Le Seigneur doit être là des fois et dire, mais qu'est-ce qu'il attend? Face à la situation, qu'est-ce qu'il attend pour prendre mon nom? Il essaie tout, plein d'autres affaires, plein d'autres formules. C'est simple. Prends mon nom. En mon nom. Bon, tu vas faire ces choses-là. Donc, c'est simple comme ça. Alléluia. Le Seigneur, il est bon. Il aurait dit ça facile pour nous. Ça aurait fait bien plus compliqué que ça. Dieu est tellement grand, il est toute sagesse, il aurait pu nous rendre la vie tellement compliquée, mais il savait de quoi nous sommes faits. Il a rendu ça simple pour nous, accessible, pour qu'on n'ait pas d'excuses devant lui, pour dire, oui, mais le Seigneur, c'est parce que c'est trop compliqué, je ne comprenais pas, si tu avais élaboré un peu plus, si tu avais mis ça un petit peu plus à ma portée, là. Non, non, il a mis ça simple. C'est simple. Donc, Dieu nous dit simplement d'avoir la foi que dans le nom de Jésus, va se produire des miracles, il va arriver des choses. Parce que le ciel se tient derrière le nom puissant de Jésus. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique, qu'on a vu aussi. On n'est pas des auditeurs oubliés. On ne sortira pas d'ici ce matin, puis on ferme tout ça, puis on continue notre petit train-train. On va s'examiner cette semaine pour voir si on est dans la foi. Pour voir si nos paroles sont en accord avec la parole de Dieu. On va tenir ferme dans la foi aussi. Ça ne veut pas dire, oui, des fois, on va recevoir des réponses qui sont instantanées. C'est le fun, ça, dans ce temps-là. Hein? Tu pries, puis oups, la même journée, il arrive quelque chose. C'est pas toujours comme ça, par contre. La réalité, c'est pas toujours comme ça. C'est dans la persévérance. Donc, on va tenir ferme. Même si ça fait 6 mois, peut-être, que vous réclamez quelque chose auprès du Seigneur, puis vous savez que c'est selon sa volonté. Continuez à tenir ferme jusqu'à ce que vous ayez la réponse. La persévérance. Avec viennent les promesses. Il faut persévérer dans la foi pour obtenir les promesses. Si les patriarches avant nous ont dû faire ça, qui sommes-nous pour faire moins? Abraham, il a dû attendre 25 ans pour avoir son fils de promesse. La persévérance dans les promesses qu'on va obtenir. Donc, toutes ces choses-là vont nous aider de continuer à combattre le bon combat de la foi. Si on pense au grand apôtre Paul qui dit qu'il a combattu le bon combat. Qu'est-ce qu'il a fait avant? J'ai achevé ma course. J'ai achevé ma course. J'ai combattu le bon combat de la foi. Donc, c'est que ça fasse une semaine que vous soyez dans le Seigneur, ou que ça fasse 50 ans que vous soyez dans le Seigneur, on est tous à la même place. on a tous un combat à combattre. Ça s'appelle le bon combat de la foi. Faut pas devenir las. Faut pas devenir paresseux. Faut pas mettre sur Dieu ce qui ne lui appartient pas. Il y a le côté de Dieu. Il nous a donné tout ce qu'il avait besoin de nous donner. On l'a vu tout à l'heure. Il nous a bénis de toute bénédiction. Il y a toujours le côté de Dieu, puis il y a le côté humain. Donc, faisons notre part. Saisissons-nous, secouons-nous, réveillons-nous, parce qu'on a des choses à faire pour le Seigneur. Le Seigneur revient bientôt. S'en vient pas pour une fripouille d'église. S'en vient. Imaginez-vous, c'est Jésus lui-même qui va présenter à son Père son épouse. Pensez-vous qu'il veut pas, il veut présenter quelque chose qui est tout fripé, qui est toute défaite, là, qui est toute à peine qui se tient debout, là, puis qu'on. Non! Il va avoir la. Jésus, il va avoir la fierté de présenter au Père une église sans tache, sans ride, sans rien de semblable. Une église qui est glorieuse. Une église qui agit sur la terre selon ce qu'on devait faire. Qu'on a fait les choses qu'on devait faire. Qu'on a marché dans la lumière de ce qui nous appartenait. Ça, c'est l'église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Il va la présenter. Il va dire, grand papa, j'ai tenté quelque chose de beau à te montrer. Regarde mon épouse. Je l'ai rachetée par mon sang. C'est moi qui t'ai. Je t'ai acquis ça, papa. Je te présente. T'es pas fière un peu de ton église? C'est cette église-là. Ça, c'est nous. Ça, c'est vous. Ça, c'est moi. Donc, on n'est pas des fripouilles. On n'est pas juste des petits membres d'église, là, qui essayons tant bien que mal à se débattre jusqu'à son retour. On est des plus que vainqueurs. Pour en autant qu'on met la parole de Dieu en pratique. Dieu va nous bénir. Il va vous rejoindre à chaque tournant, chaque pas que vous allez faire. Dès que vous appliquez la parole de Dieu, il va la confirmer, parce que Dieu est fidèle. Il confirme pas la personne, il confirme sa parole. Moi, je ne m'attends pas d'aller en Haïti et que Jésus va confirmer Alice. Non, il va confirmer sa parole. Il est fidèle à sa parole, il va la confirmer. C'est pour ça que j'ai la certitude qu'il va y avoir des miracles, des guérisons, des prodiges, parce qu'il confirme sa parole. Pour en autant que moi, je vais aller prêcher sa parole. Sans la diluer, sans l'arranger autrement, sans prêcher une parole qui va chatouiller les oreilles. Parce qu'il faut faire attention. Des fois, surtout dans des églises, des fois, il ne faut pas que la personne qui prêche soit là pour chatouiller, pour ne pas offenser, dire, oh, ben là, ça, c'est une parole trop dure. Non, non, non. Le Seigneur veut qu'on dise la vérité. Dans l'amour, mais il veut qu'on dise la vérité. Il veut qu'on se lève, puis qu'on prenne position, puis qu'on devienne ce qu'on était fait en lui. La justice de Dieu. Il veut qu'on prenne l'héritage. On est héritier avec le Père, co-héritier avec le Fils. Il veut qu'on vive selon ça, dans la prospérité. Je ne dis pas dans les richesses, pour qu'on se perde là-dedans et qu'on oublie Dieu, mais dans la prospérité. La vraie prospérité, c'est qu'on a suffisamment pour nous, suffisamment pour bénir, un surplus pour toute bonne œuvre. Ça, c'est la prospérité biblique. Alléluia. Donc, on va se lever ce matin. On va laisser le Seigneur sonder nos cœurs. On va laisser le Seigneur mettre dans nos cœurs sa parole. Si on peut avoir peut-être, oui, un petit peu de la musique, merci. On va laisser le Seigneur faire son œuvre en nous. Mais ce que je voudrais savoir ce matin, c'est que s'il y a quelqu'un parmi nous, parce qu'il y a toujours un commencement à toute chose, on ne peut pas mettre ces choses-là en pratique si on n'a pas fait le premier pas. C'est quelqu'un ici qui n'a pas donné sa vie au Seigneur Jésus. S'il n'a pas confessé le Seigneur Jésus publiquement, s'il n'a pas cru dans son cœur, s'il n'a pas confessé de sa bouche, vous ne pouvez pas commencer à opérer dans ces choses-là. Vous ne pouvez pas. Il faut faire la première étape. Donc, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui dit, oui, moi j'ai compris tout ce que tu as dit, mais je ne suis pas certaine. Je ne suis pas certaine de... Tu as parlé tout à l'heure que je peux me tenir devant Dieu sans honte. Sans culpabilité devant Dieu qui m'a créé. Lui qui est parfait, il est trois fois saint. Moi, je ne suis pas certaine d'être capable de me tenir devant lui comme ça. Ça veut dire peut-être quelqu'un qui ne connaît pas ses droits en Christ ou quelqu'un qui n'a jamais reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. N'a jamais fait l'expérience de naître de nouveau. Je ne parle pas là à ceux qui veulent revenir au Seigneur, reconsacrer leur vie. Je fais un appel à quelqu'un ici qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur, qui n'a jamais dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me pardonnes. J'ai besoin... Est-ce que quelqu'un comme ça ce matin, si levez la main, si vous n'avez jamais reçu le Seigneur Jésus? On va prier avec vous. On va vous aider à faire ce pas. C'est le premier pas. Donc, si quelqu'un, soyez pas gênés. Soyez pas gênés, c'est entre vous et le Seigneur. C'est un moment solennel. C'est peut-être une occasion qui ne se représentera plus. Donc, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui dit, moi, je ne suis pas certain. Je ne sais pas si en mourant, là, je ne suis pas certain que je suis en paix là, avec le Seigneur. Je ne sais pas. Si quelqu'un, levez la main. On va prier avec vous. Sinon, on est tous des croyants ici. On a tous donné notre vie au Seigneur Jésus. On a tout fait de lui notre Seigneur et notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle à aller plus haut, à aller plus loin avec lui. Il nous appelle à être cette épouse auquel je fais de la référence tout à l'heure. Une épouse qui est sans ride, qui est sans tache. Le Seigneur nous appelle à cheminer avec lui. Il nous appelle à mettre sa parole en pratique. Alléluia. Alléluia. Donc, s'il y a des besoins qui sont ici ce matin, sûrement qu'il y a des besoins ici. On s'assemble pour entendre la parole de Dieu, mais des fois, par la parole de Dieu, par l'écoute de la parole de Dieu, des fois, ça touche un besoin qu'on a. S'il y a des gens ici ce matin qui disent, ben là, moi, j'ai pas marché vraiment dans mes droits. J'ai toléré la maladie dans mon corps. Je savais pas que je pouvais être guérie si facilement. Je savais pas que par les meurtrissures de Jésus, qui m'avait déjà guéri, m'avait déjà donné toutes bonnes choses avec lui. C'est quelqu'un qui est malade ce matin dans son corps, puis vous croyez en son nom. Vous croyez que quand on va vous toucher, c'est la main de Jésus qui va vous toucher. C'est sa compassion. Il est ici ce matin. Sa présence est au milieu de nous ce matin. C'est des gens qui sont malades. Le Seigneur veut vous guérir. Il ne veut pas vous voir malade. Il a besoin de vous. Il a besoin des vases, des vaisseaux en santé. Ce n'est pas sa volonté qu'on soit malade. Si vous avez besoin de reconsacrer votre vie au Seigneur, vous avez besoin d'un nouveau départ. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Si vous avez besoin de juste une onction fraîche qui vienne sur vous, un renouveau dans la présence de Dieu, dire, oh, Seigneur, j'ai besoin de davantage de me baigner dans ta présence. J'ai besoin davantage de ton onction qui est libre ici ce matin, qui est gratuite. Venez ce matin si vous avez des besoins. Soyez assurés que le Seigneur est fidèle. Confirme toujours sa parole. Il va vous donner ce dont vous avez besoin pourvu que vous approchez en accord avec sa parole, avec des cœurs réceptifs, des cœurs qui croient que quand on prie, le Seigneur nous écoute et nous donne ce dont nous avons besoin. Donc, on va sonder nos cœurs ce matin. S'il y a des gens qui vous avez des besoins, je vous invite à avancer. Ne soyez pas gênés. Le Seigneur est ici au milieu de nous. Il est ici pour briser des jougs. Il est ici pour briser, pour réparer. Il faut qu'il brise avant. Des fois, c'est une façon qu'on a compris les choses. On s'est embourbé dans des affaires. Dieu va briser ça, puis il va nous façonner. Il va vous façonner autrement, selon sa parole. Donc, n'ayez pas peur, puis avancez ce matin. Si vraiment vous dites que ça me parle, puis moi, j'ai un besoin à matin, quittez pas sans voir votre besoin rempli. Ça ne sera pas la faute du Seigneur. Lui est ici pour vous aider. Il est ici pour vous donner ce que vous avez besoin. À vous de répondre à l'invitation. Alléluia, Seigneur, Dieu, viens devant toi. On te remercie, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur Dieu, pour ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur Dieu, que nos cœurs sont réceptifs à toi. Merci qu'on reçoit ta parole ce matin, Seigneur, avec des cœurs qui sont humbles. On met de côté tous nos préjugés, tout ce qu'on avait compris ou pas compris avant, puis on vient à toi librement, Seigneur Dieu. On vient à toi que tu nous bénisses, que tu nous aides à comprendre, que tu nous donnes une révélation dans nos cœurs de qui tu es vraiment et qui nous sommes en toi, Seigneur Dieu. Alléluia. Merci pour ton amour, ta présence, ta fidélité, Seigneur. Je prie pour chaque personne qui sont ici ce matin, Seigneur, que le message puisse toucher les cœurs afin qu'on soit transformés de gloire en gloire à ton image, Seigneur Dieu. Que tu puisses te servir de nous. C'est important de savoir qui nous sommes parce que nous avons quelque chose à contribuer. On a quelque chose à donner aux autres qui sont dehors, qui ne te connaissent pas. Mais si on ne sait pas nos droits en toi, Seigneur Dieu, si on est esclave, on ne peut pas libérer ceux qui sont esclaves. Merci, Seigneur, que ce matin, tu veux nous libérer dans nos corps, dans nos pensées, dans notre esprit. Tu veux nous libérer, tu veux qu'on soit entier à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. On peut chanter? Oui, tu peux, absolument. Donc, l'invitation est toujours là. S'il y a des gens qui vous sentez que vous avez besoin d'avancer pour de la prière, ne vous jetez pas, on va prier pour vous. Il y a une équipe ici de, je pense que Caroline, elle avait été demandée pour prier aussi pour les gens. Donc, si vous avez à cœur de venir, gênez-vous pas. Avancez! C'est votre jour aujourd'hui. Le Seigneur veut vous bénir. Il veut vous donner ce dont vous avez besoin.
Alléluia.
Donc, alléluia.
Alléluia. Laissez tomber les dernières barrières. Venez devant le Seigneur. J'ai vraiment le sentiment dans mon cœur que le Seigneur, ce matin, va vous donner quelque chose. Vous savez, il y a juste 2 ans, je crois que c'était dans le mois de juillet, il y a 2 ans, le Seigneur m'a dit, mais la guérison, la prospérité, celui qui est dans la trace du Seigneur, celui qui suit le Seigneur, celui qui est dans les plans du Seigneur, ma grâce court après la personne, avec la prospérité, c'est la prospérité qui court vers toi, c'est la guérison qui court vers toi, parce que tu es sur les traces que je t'ai données, parce que tu es sur le chemin que je t'ai donné, et tu es en train de le suivre, alors c'est la guérison qui vient vers toi. C'est pas toi qui la demande, c'est elle qui te court après. C'est le moment de vraiment laisser tomber les dernières barrières et de dire au Seigneur, je suis ton enfant et je veux recevoir de toi, Seigneur. Alors, je sais qu'il y en a d'autres encore qui ont besoin de ça. Je sais qu'il y en a d'autres encore qui doivent encore s'approcher avec le Seigneur et développer cet amour dans l'obéissance et dans l'engagement. Et de se dire, oui Seigneur, je te suis. Alors n'hésitez pas, c'est maintenant. C'est maintenant. L'onction est là. L'onction est là. Là. Nom de Jésus.